Salut Siri, comment tu vas ?
Je vais bien, merci.
Digital, une émission proposée par les étudiants de l'Université de Nîmes Campus de Mende, 48 FM et Lozère Développement grâce au programme DEFIOC de la région Occitanie.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle édition de 48 Digital. Je suis Jean-Marie Gracia Mavungu, étudiant en communication numérique et e-activité à l'Université de Nîmes, au campus de Mende. Et je suis honoré et j'ai le plaisir d'être votre présentateur du jour. Je suis accompagné de mes adorables collègues Mohamed, Laetitia et Maëlys. Et nous sommes en direct sur les pages YouTube et Facebook de Lozère Développement et sur les ondes de 48 FM. Aujourd'hui, nous allons plonger sur un sujet plus qu'essentiel et très préoccupant à l'ère du numérique, à savoir la cybercriminalité et la cybersécurité. À mesure que notre monde devient de plus en plus connecté, ces questions prennent une place assez primordiale dans notre quotidien, à savoir quels sont les risques pour les entreprises et les particuliers, comment peut-on se protéger efficacement contre les menaces numériques et quelles sont les stratégies qui doivent être mises en place pour sécuriser nos données. Pour répondre à ces questions, nous avons le privilège d'accueillir auprès de nous M. Nicolas Gachon. Bonjour M. Nicolas.
Bonjour.
Alors, vous êtes dirigeant de Saphir. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Alors oui, bonjour à tout le monde. Tout d'abord, avant de commencer, je voudrais vous remercier de l'invitation et de la visibilité à apporter. Donc Saphir est une jeune entreprise qui a pour but d'accompagner les sociétés, les entreprises, les collectivités et les associations à se préparer et à combattre, entre guillemets, les menaces informatiques en simplifiant, en rendant un peu plus opérationnel leur système informatique, outils qu'ils utilisent à leur quotidien.
Alors, quelle est selon vous l'importance de la cybersécurité face à l'évolution constante du numérique et à l'augmentation des cyberattaques ?
Alors, avant de répondre à cette question, il faut déjà se dire que les cyberattaques, ce n'est pas un phénomène nouveau. Je pense que l'informatique est née dans les années 50 et je pense que le lendemain de la création du premier ordinateur, le premier virus est apparu. Par contre, ce qui a changé aujourd'hui, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde ultra connecté. Ultra connecté de par les appareils, tout le monde a aujourd'hui un smartphone, on a des outils qui sont connectés, des voitures, des montres. Donc finalement, c'est la surface d'attaque qui est plus importante. Et en plus, aujourd'hui, on ne peut pas se passer de l'informatique. Ne serait-ce que pour faire une déclaration administrative, nous sommes obligés de passer par les ordinateurs. Donc, de plus en plus de données sont stockées. Ces données ont une valeur. Il y a donc finalement en face des personnes qui vont essayer de subtiliser ces données, ces informations, ou tout simplement rendre vulnérable une société, que ce soit par rapport à de la compétitivité économique ou autre. On a aussi un contexte actuel géopolitique qui est assez insécurisant, qui amène des attaques, on va dire, étatiques, donc qui va fragiliser les systèmes informatiques. Et la cybersécurité est là finalement pour protéger face à ces menaces qui sont de plus en plus importantes, protéger les individus, les données des personnes, protéger le matériel, protéger le fonctionnement et continuer à avancer et à vivre dans un monde serein et surtout dans ce monde et accompagner tout le monde, que ce soit les personnes qui sont à l'aise avec cet outil informatique comme les personnes qui le sont un petit peu moins.
Merci beaucoup pour ces précisions. Alors, comment votre entreprise procède-t-elle pour évaluer la sécurité informatique des entreprises ?
Alors mon entreprise aujourd'hui, elle propose différents audits. Elle propose un audit global, on va dire, initial, qui va venir regarder les performances informatiques, sécurité de différents pans d'un système d'information. Il va y avoir un audit technique qui va venir regarder un petit peu la partie matérielle, qui va aller voir les vulnérabilités qu'il peut y avoir dans un ordinateur, un serveur, un pare-feu. Après, il va y avoir un audit fonctionnel et organisationnel qui, lui, va regarder plus le fonctionnement de manière globale de l'organisation et l'organisation en elle-même, voir si elle se rapproche de ce qu'on appelle l'état de l'art, entre guillemets. L'état de l'art, c'est les préconisations qu'on propose pour arriver à un système qui est efficient. Alors, le but, c'est de s'en rapprocher. Y arriver, c'est quand même assez utopique vu que tout change tous les jours. Après, il y a un dernier versant qui est la partie réglementaire. Aujourd'hui, on a quand même la chance en Europe et en France notamment d'avoir des réglementations qui sont proposées par des organismes comme la CNIL, l'ANSSI ou alors notre gouvernement qui vont nous permettre de nous sécuriser. Après, la réglementation, c'est toujours quelque chose qui est fastidieux, qui est lourd à pouvoir faire évoluer dans une entreprise. Mais c'est aujourd'hui la seule chose qui nous permet indirectement d'avoir des solutions concrètes face aux cybermenaces. Cet audit, finalement, une fois qu'il sera terminé, ça va mettre en exergue des défaillances, qu'elles soient techniques, qu'elles soient réglementaires, je viens de le dire, qu'elles soient dans l'utilisation de tous les jours, dans l'organisation. Et moi, je vais proposer des solutions pour pouvoir éviter d'augmenter ces risques. Moi, j'ai une approche par les risques et par l'impact que peut avoir justement les cybermenaces dans une entreprise. Un risque, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on va annuler un risque, c'est pas possible. Par contre, le travail, ça va être de le minimiser. Et moi, mon travail, c'est de le minimiser au maximum pour que les impacts soient le moins en moins importants pour l'entreprise.
Ok. Alors, quels sont les types de cyberattaques que vous rencontrez le plus souvent ?
Alors, les cyberattaques, il existe autant de cyberattaques que d'outils, que de personnes. Après, il y en a quand même certaines qu'on rencontre d'autant plus. C'est souvent celles, en plus, qui font souvent le buzz sur les réseaux. Une des plus importantes, parce qu'elle concerne vraiment tout le monde, c'est des attaques qu'on appelle d'ingénierie sociale, qui vont travailler sur la psycho, qui vont attaquer et fonctionner sur la psychologie de l'être humain. Alors ça, on l'a tous les jours, on le reçoit, c'est sous plusieurs formes, le SMS, l'appel, le mail, où finalement on va vous faire une proposition, vous avez sûrement dû tous recevoir un mail qui vous propose d'acheter un iPhone à 15 € ou alors que vous avez gagné, il est gratuit. Là, en général, il faut toujours se dire que derrière, il y a anguille sous roche, si c'est gratuit, rien n'est gratuit dans la vie, donc il y a peut-être un problème. Et après, on a ce qu'on appelle aussi les ransomware, qui aujourd'hui sont un gros fléau pour les entreprises, parce qu'un ransomware, il va avoir plusieurs fonctionnalités une fois qu'il sera activé, mais sa principale fonction, finalement, c'est de chiffrer les données d'une entreprise. À partir du moment où les données, où tout le système d'information d'une entreprise est chiffré, il faut se dire qu'il est inutilisable. Donc ça, c'est quelque chose qui va faire perdre de l'argent indirectement à l'entreprise, qui va compromettre un petit peu sa réputation. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut arriver à contrecarrer et qui sont de plus en plus difficiles à contrecarrer. Je vais vous donner un exemple, je ne sais pas si vous avez entendu. Alors, la semaine dernière, il y a eu le Brad Pitt IA Deepfake qui a fait le buzz, bon, qui touchait plutôt des personnes comme vous et moi, mais il y a une année en Corée du Sud, il y a eu une entreprise, une multinationale qui a été attaquée et dont le comptable a fait un versement de 25 millions d'euros suite à une vidéo qu'il avait reçue où en fait dans cette vidéo il y avait le comité directeur de l'entreprise qui faisait sa réunion hebdomadaire ou mensuelle et à l'issue de ce codir, il a été demandé justement au comptable de faire le virement, sauf qu'il s'avérait que c'était un deepfake et grâce à l'intelligence artificielle, les mots et les lèvres qui bougent ont été changés et voilà, et l'entreprise a perdu 25 millions d'euros.
Waouh, très impressionnant. Alors, est-ce que vous pensez que le type de secteur peut influencer la fragilité à être attaqué par ces types de menaces ou ça dépend du système informatique?
Alors, tout secteur d'activité est impacté par les cybermenaces. Après, il y a certains secteurs qui vont attirer un peu plus les cyberattaquants de par leur secteur d'activité, vous venez de le dire. Par exemple, il y a ce qu'on appelle des organisations d'importance vitale, des OIV, qui sont par exemple le transport, les gouvernements, l'eau, les énergies, qui sont quand même des endroits très sensibles. On peut imaginer que demain, si les infrastructures électriques sont attaquées en France et qu'on n'a plus d'électricité, on a bien vu, si vous étiez en Lozère en 2008, quand il y a eu ne serait-ce qu'un mètre de neige, c'était pas une cyberattaque, mais on n'a plus d'électricité pendant 4-5 jours, et ça devient vite compliqué, surtout aujourd'hui. Donc ces secteurs-là sont des cibles privilégiées, mais par contre, ce sont des cibles qui sont quand même et des entreprises qui sont très bien sécurisées. Parce que dedans, il y a l'État, il y a plein de choses, et c'est quand même des endroits, des secteurs où il y a un petit peu de l'argent, parce que forcément, sécuriser, ça coûte de l'argent. Après, il y a des secteurs d'activité, notamment la santé ou le médico-social, qui aussi sont des cibles privilégiées, mais eux, de par la nature de leurs données. Dedans, ils travaillent sur des données de santé. Aujourd'hui, on sait que les données de santé, c'est un gros marché sur ce qu'on appelle le dark web, un petit peu l'Internet des hackers, mais pas que, tout le monde peut y aller. Après, il faut comprendre comment ça fonctionne. Il faut savoir qu'une donnée de santé, ça se vend 500 € sur le marché. Donc vous imaginez tous les établissements médico-sociaux ou les CHU, toutes les données qu'ils ont, ça peut vite faire de l'argent, sachant qu'une donnée volée, elle peut être revendue à vous, à quelqu'un d'autre, à plusieurs personnes. Et après, il y a aussi d'autres types d'entreprises qui sont impactées, ce sont les TPE-PME. Or par contre, elles sont attaquées parce que ce sont des cibles fragiles. Fragiles parce que justement, peu de moyens, des outils souvent obsolètes, des vieux ordinateurs, pas de sauvegarde, tout ça. Sûrement des bons payeurs parce que c'est les personnes qui vont sûrement avoir le plus de dégâts, entre guillemets. Alors, je ne dis pas que les hôpitaux, systèmes de santé n'ont pas de dégâts, parce qu'on en parlera au CHU de Versailles, tout ce que ça leur a coûté, la perte brute qu'ils ont eue. Mais voilà, grosso modo, effectivement, chaque secteur est impacté, mais pour des raisons différentes, entre guillemets.
Justement, vous venez d'évoquer la situation des PME. Et quel type de solution que vous pouvez proposer pour les PME, sachant qu'ils ont des ressources assez limitées?
Alors les PME, effectivement, elles ont des ressources assez limitées. Après, il y a des choses souvent simples à mettre en place. Bon, la première chose à voir, c'est l'ordinateur, quoi, ou du moins le système informatique. Si c'est des outils qui ont 10, 15, 20 ans, qui sont vraiment tout pleins de failles, c'est des choses à changer. Après, par contre, il y a dans les habitudes qu'on peut mettre en place. Changer son mot de passe régulièrement, avoir une solution de sauvegarde. Moi, je mets souvent l'accent sur la solution de sauvegarde parce que finalement, c'est ce qui va sauver tout type d'attaque. Comme je disais tout à l'heure, des attaques, il y en a pour tout le monde. Il est difficile de dire qu'on va pouvoir empêcher une attaque. Par contre, là où on a la main, c'est sur comment se remettre rapidement de cette attaque. D'ailleurs, les entreprises que je rencontre aujourd'hui, ils me disent, et ils ont raison, la question, c'est pas est-ce que je vais être attaqué, mais plutôt quand. Donc finalement, eux, ils vont vouloir mettre l'accent sur le temps de reprise d'activité. Est-ce qu'il faut qu'il soit un jour, deux jours, une demi-journée? Et alors après, c'est là où il faut mettre les moyens qui va. Et la chose qui va te permettre de réduire ce temps-là, c'est la sauvegarde. La sauvegarde, certes, mais après aussi, il faut quand même contrôler les sauvegardes parce qu'on peut très bien avoir une entreprise qui, moi j'ai eu le cas, qui me dit mais j'ai des sauvegardes, moi elles sont faites depuis des années, et sauf que quand on a été les contrôler, ça faisait des mois qu'elles ne se faisaient plus. Donc après, si tu as une sauvegarde qui a plus de 3 mois, c'est pareil, c'est comme si tu n'avais rien du tout. Donc des sauvegardes, changer de mot de passe, regarder s'il y a des petites procédures claires et surtout des procédures de réponse à incidents. Parce qu'il faut se dire qu'aujourd'hui, on va dire, ben, mais demain, on va avoir une cyberattaque. Oui, on saura y répondre parce qu'on est paré, on est bien. Sauf que le jour où ça arrive, c'est quand même une panique générale. Et c'est très bien d'avoir des procédures claires, des plans de continuité d'activité, de reprise d'activité qui vont permettre de phaser un peu tout ça et de rassurer tout le monde.
Ok. Et vous, au niveau de votre entreprise Saphir, comment se déroule l'approche envers les entreprises? Est-ce que c'est eux qui viennent vers vous ou c'est vous qui y allez? Et j'aimerais aussi savoir, est-ce que la majorité des entreprises sont conscientes des risques qu'ils encourent sur leur protection des données et autres?
Alors, pour répondre à la première question, il y a un peu de tout. Il y a certaines entreprises où c'est moi qui vais vers elles, ou alors des entreprises qui viennent vers moi parce que j'ai été préconisé par une entreprise avec qui j'ai travaillé. Puis après, il y a quand même, en Lozère notamment, on est quand même un département où pas tout le monde se connaît, mais où il y a des réseaux d'entrepreneurs, où tout le monde se rencontre. Donc c'est à partir de ce moment-là où se font les échanges. Après, toute entreprise a conscience de la cyber, des problèmes de cybersécurité qu'il rencontre. Par contre, ça ne fait pas forcément partie des priorités. Aujourd'hui, toute entreprise a des priorités. Moi, après, c'est mon travail de leur expliquer que faut que ça devienne une priorité parce que justement, les impacts et les risques sont importants. Et même si leur priorité, finalement, c'est entre guillemets leur business, on va dire, si demain, pendant une semaine, ils ne peuvent plus travailler, leur business, il en prend un petit coup. Donc, il faut arriver à leur trouver ces solutions-là. Et quand même, le nerf de la guerre, c'est l'argent et de trouver des solutions peu onéreuses et durables. Alors aujourd'hui, justement, pour permettre de pallier un petit peu à ce problème financier. Moi, je prône beaucoup les logiciels libres qu'on appelle open source, qui sont certes difficilement accessibles à tout le monde, mais une fois qu'ils sont mis en place, il y a de la chance, c'est quand même des outils qui sont fiables et qui n'ont pas besoin d'un suivi. Ils sont durs à paramétrer. Après, par contre, une fois qu'ils sont en route, il n'y a pas besoin d'un suivi forcément ultra régulier.
Ok. Est-ce que vous avez des exemples de situations ou formations adéquates qui ont permis à déjouer une tentative de cyberattaque?
Alors, moi, j'anime des formations. Après, je n'ai pas forcément les retours nécessaires pour me dire si ma formation a permis à déjouer une cyberattaque. Par contre, j'ai des exemples là où je travaillais avant, où justement on avait mis en place des formations sensibilisation à la cybersécurité de manière très simple. Hein, mais ça avait permis quand même, dans le mois qui a suivi, il y a eu, alors la chance, c'est pas le mot, parce que c'est jamais une chance de se faire attaquer. Mais il y avait eu un cas concret où finalement il y avait eu un système, un phishing, où quasiment toutes les adresses de l'entreprise avaient reçu un mail frauduleux. Et plutôt qu'avoir 1 500 salariés qui ont cliqué dessus, il n'y en a que quelques-uns, parce qu'après c'est toujours pareil. Il y a une attaque pour toute personne et même si on est paré à toutes ces éventualités qu'on peut rencontrer, il y a forcément un jour où on est un peu plus sensible, où on va avoir un problème, une défaillance. Tout le monde se fera avoir un jour. Et en tout cas, voilà, ça avait permis à ce que un minimum de gens cliquent sur le lien et ceux qui avaient cliqué, justement, à partir de l'étape d'après, ils étaient dit, ah, il y a quand même un truc bizarre, on me demande des informations personnelles, il faut se dire qu'une banque, un client, on ne va pas vous demander votre numéro de sécurité sociale ou votre RIB de cette manière-là. Donc voilà, ce n'est pas un exemple concret. Moi, après, sur les formations, je vais plutôt être attentif à la réceptivité des gens, parce que tu peux tomber sur des formations où les gens ne sont pas du tout réceptifs à ton discours et d'autres qui sont un peu plus réceptifs.
Ok. Et y a-t-il des entreprises losériennes qui sont concernées par ces attaques?
Alors, des entreprises losériennes connues, il y en a. Moins connues, je pense que la Lozère est autant sujette aux cyberattaques, de plus ou moins grande ampleur, effectivement, en échangeant avec les gens. Tout à l'heure, on parlait de savoir si les entreprises elles étaient conscientes des risques. On peut avoir une discussion au début où ils vont nous dire ah, mais moi, c'est pas ma priorité, c'est pas ma priorité. Puis en fait, quand tu continues à discuter, tu dis mais cette fois-là, tu as reçu un mail, tu le sais pas, mais tu t'es sûrement fait voler tes données. Donc voilà, il n'y a pas eu de chiffrement de données, il n'y a pas eu quelque chose de visible qui lui a empêché de travailler, mais il faut se dire que peut-être il y a eu subtilisation de données qui sont parties. Ne serait-ce que tout simplement, si demain tu as plus accès à ta boîte mail parce que ton mot de passe a été changé, s'il a été changé, ce n'est pas ton hébergeur de boîte mail qui l'a changé, c'est que c'est un attaquant qui est venu prendre la main sur ta boîte mail et qui a changé ses données, quoi, qui a changé ton mot de passe. Donc il faut se dire qu'à minima, il a récupéré tout ton carnet d'adresses.
Ok.
Et après, on connaît les incidences qu'ont les carnets d'adresses sur les attaques potentielles de nos collaborateurs.
D'accord. Juste avant, vous avez évoqué en général les types de fraudes sur la cybercriminalité. Et pour approfondir cette thématique, nous allons écouter Mohamed qui a étudié la question.
Merci Jean-Marie. Et bonjour à tous et à toutes. La cybercriminalité est devenue une menace omniprésente chaque jour. Des millions d'utilisateurs Internet sont exposés à des tentatives de fraude, ces attaques exploitant souvent la négligence humaine et les failles technologiques. Aujourd'hui, on va parler des types de fraude en cybercriminalité et proposer des mesures pour s'en protéger. Bon, en commençant avec le phishing. Le phishing est l'une des formes de fraude les plus courantes. Les cybercriminels ou les hackers envoient des courriels ou des messages contenant des liens malveillants et des demandes d'informations sensibles, comme identifiant, mot de passe et données de carte bancaire. Ces messages se font souvent passer pour des entreprises, comme des banques ou des plateformes populaires. Par exemple, un courrier prétendant venir de votre banque vous demandez de vérifier votre compte en cliquant sur un lien. Il y a aussi une autre fraude qui s'appelle le smishing. Le smishing est une variante de phishing qui utilise les SMS pour tromper les victimes. Je vous laisse ce type de fraude que Laetitia vous expliquera ensuite plus en détail. Passons maintenant à une fraude également courante de nos jours, largement utilisée par les pirates informatiques, le ransomware. Il s'agit d'un logiciel malveillant qui bloque l'accès de vos données personnelles ou à votre système d'exploitation en général. Exemple, vous pourrez recevoir un courrier contenant une pièce jointe infectée. Après l'avoir ouverte, tous vos fichiers deviennent inaccessibles et une note de rançon s'affiche sur votre écran. Un autre type de fraude est la fraude par carte bancaire en ligne, les pirates interceptant vos données bancaires lors d'achats en ligne non sécurisés. En utilisant des logiciels pour voler vos informations de paiement, par exemple, si vous effectuez un achat sur un site sans protocole de sécurité, c'est le HTTPS, vos données bancaires pouvant être dérobées. Au final, on a le dark web, le plus grand place de marché pour les cybercriminels où se déroulent de nombreuses activités illégales. Pour passer comment se protéger contre la cybercriminalité, voilà quelques conseils. Vérifie toujours l'adresse ou le numéro de l'expéditeur avant de cliquer sur le lien et ne télécharge pas les pièces jointes provenant des sources inconnues. Aussi, utilisez des mots de passe longs, contenus des lettres majuscules et des chiffres et des caractères spéciaux. Changez régulièrement vos mots de passe et activez l'authentification à deux facteurs, car cette mesure ajoutait une couche de sécurité supplémentaire en demandant une confirmation via votre téléphone ou une application. Aussi, ne partagez pas d'informations sensibles comme votre adresse, votre numéro de téléphone et nom complet, et utilisez un réseau privé virtuel qui s'appelle VPN pour chiffrer vos données lorsque vous naviguez sur des réseaux publics. Et merci pour votre attention.
Vous avez quelque chose à ajouter sur cette chronique, Monsieur Nicolas ?
Non, il a tout dit. Après, il a tout dit de manière succincte. C'était très bien parce que la difficulté souvent en cybersécurité, c'est de prévenir, sensibiliser, sans effrayer. Parce qu'aujourd'hui, quand on entend justement tout ce qui se passe, il en a parlé pendant 5 minutes. Je pense qu'on pourra parler pendant des heures et des journées. Et à la fin, on se méfiera de tout le monde, on fera attention à tout, puis même presque on ne fera plus rien, alors que ce n'est pas le but. Le but, c'est de faire attention. Il faut se rendre compte tout simplement que un jour, on se fera avoir, hein, parce que c'est finalement le but de ces attaquants, c'est de vous avoir. Mais voilà, si on le sait, si on sait déjà quel type d'attaquant on a en face de nous, si on sait ce qu'ils recherchent, on va être préparé. Après, on se fait avoir, et bien justement, il y a des solutions techniques, il y a des solutions organisationnelles, des procédures qui vont vous permettre de limiter l'impact que ça va avoir sur votre organisation. Après, il ne faut pas non plus blâmer les gens qui font des erreurs, tout le monde en fait. Mais bon, voilà, par contre, il faut rester justement, essayer d'être cohérent dans une entreprise pour pouvoir répondre de manière plus efficacement à ce genre d'attaque. Donc non, rien à rajouter, il m'a piqué la moitié de mes réponses, mais c'est très bien.
Ok, super. Alors, à présent, pour faire un lien avec les nouvelles technologies, nous aimerons savoir comment les nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle et le machine learning transforment-elles le domaine de la cybersécurité ?
Alors, l'intelligence artificielle, elle le transforme des deux côtés. Elle le transforme d'un côté, d'un point de vue des attaquants et d'un point de vue de la défense. Alors d'un point de vue des attaquants surtout, si vous avez vu l'évolution, on va rester sur le phishing des mails frauduleux qu'on reçoit. On s'apercevait qu'il y a quelques années, on recevait beaucoup de mails frauduleux déjà. Par contre, ils étaient pleins de fautes d'orthographe, il y avait du vouvoiement, du tutoiement, des phrases qui n'étaient pas forcément cohérentes. L'intelligence artificielle est venue corriger ce genre de problèmes. Elle est venue aussi profiler les victimes. Aujourd'hui, on reçoit, moi je suis abasourdi et impressionné par la qualité des messages qu'on reçoit et surtout la précision des messages qu'on reçoit. Alors, il faut se dire que l'IA va rechercher des informations, mais il faut se dire aussi surtout que nous, on donne beaucoup d'informations sur ce qu'on est, sur ce qu'on fait tous les jours. Vous, d'autant plus, vous êtes dans la communication. Vous êtes une génération qui est très connectée, réseaux sociaux, où on partage beaucoup de choses. Faut se dire qu'il y a quand même beaucoup d'attaquants qui passent leur journée sur les réseaux sociaux pour savoir un peu le train de vie, le mode de vie des personnes, des entreprises. Parce qu'aussi, c'est pareil, on fait des fois difficilement la différence entre le pro, le privé. Et ça, toutes ces informations, il faut faire attention aux informations qu'on divulgue, parce qu'un attaquant, quand il arrive, on y a presque donné les clés pour qu'il ouvre la porte et qu'il puisse venir nous attaquer. Après, de l'autre côté, dans la partie défense, il y a aussi l'intelligence artificielle, le machine learning qui va venir aider la cyberdéfense. Ça va venir aider grâce à des outils intelligents. Il existe aujourd'hui des outils type EDR, IDR, bon, c'est un peu technique tout ça, mais qui vont réussir à analyser de manière fine et réagir et réfléchir en fonction de ce qui se passe dans le trafic réseau. Alors, il ne va pas empêcher, quoi, il ne va pas sortir ou contrecarrer une attaque. Par contre, s'il voit qu'il y a du trafic dans une porte dérobée, on va dire, un peu douteux, il peut la fermer de manière automatique. Et après, il y aura des alertes, des explications, un peu tout ça. Donc oui, l'IA apporte des menaces, apporte des solutions. Après, est-ce que les attaquants sont plus férus de l'IA que les défenseurs ? Ça, c'est une autre question.
Ok, super. Alors, vous avez tout à l'heure évoqué aussi la question de la réglementation. Et comment, comment appréhendez-vous cet aspect? Est-ce que les entreprises sont conscientes de la réglementation et comment est-ce que votre entreprise accompagne-t-elle les entreprises pour la réglementation, telles que dans la RGPD ou le NIS2?
Alors, les entreprises, notamment pour le RGPD, ont totalement conscience de la réglementation. Ils ont aussi totalement conscience du travail que demande une mise en conformité réglementaire sur cette partie-là. Parce que c'est vrai que c'est un travail lourd au début. Après, une fois qu'il est bien fait, que toutes les règles sont bien établies, les traitements, les mises en sécurité, les finalités, tout ça, on ne va pas faire un cours sur le RGPD. Ça demande de la veille. Mais effectivement, ça demande un gros travail au départ, et puis ça permet de se sécuriser d'une part, de protéger les données personnelles, de se rendre compte aussi du tas de données personnelles qu'on travaille ou de données indirectes qu'on travaille dans une entreprise, chose que des fois on n'a pas forcément la vision, et notoirement ça permet d'éviter d'avoir une sanction si contrôle il y a derrière, donc ce qui n'est pas négligeable. Après, le RGPD, c'est une loi qui est arrivée en 2018, mais qui fait suite finalement à une loi de 1978, donc qui est quand même très ancienne, mais qui a du mal à passer. Alors qu'aujourd'hui, c'est la seule loi qui concerne toutes les entités françaises et européennes, que ce soit des entreprises, TPE, PME, que ce soit la taille, le chiffre d'affaires et compagnie. Et c'est la seule qui te donne aujourd'hui des réelles solutions pour avoir des procédures et un petit peu de cybersécurité dans les entreprises. Vous avez parlé de la NIS 2, qui est un petit peu la même chose finalement que le RGPD, mais plus sur l'organisation, système d'information et matériel, qui elle aussi apporte des solutions, mais qui est quand même plus soumise, quoi, qui d'un côté est plus pour des grosses entreprises, on va dire, parce qu'il va y avoir après des seuils du nombre de salariés, du nombre de chiffres d'affaires. Par contre, elle va avoir comment expliquer ça ? Une entreprise qui va être soumise à la NIS 2 va devoir se mettre en conformité à la NIS 2. Par contre, une entreprise qui n'est pas soumise à la NIS 2, mais qui travaille avec cette entité, elle aussi sera obligée de se conformer de manière indirecte. Donc après, voilà, c'est toujours des petits empilements qui permettent de toute façon, quoi qu'il en soit, d'améliorer la cybersécurité. Et comme vous avez dit, et comme je vous ai dit, tout le monde a la conscience, mais le temps, l'argent sont des choses qui manquent souvent. Et justement, moi, après, je suis là pour permettre à une entreprise de ne pas se soucier de cette réglementation-là.
Ok, super. Alors, pour terminer, on aimerait savoir quels sont vos conseils que vous pouvez prodiguer aux entreprises, ceux qui veulent se lancer, ceux qui ont commencé, et ceux qui aussi, plus tard, auront ce genre de situation. Quelles sont les procédures qu'elles peuvent suivre pour faire face à ces cyberattaques?
Alors déjà, le premier conseil, ça serait de ne pas attendre d'être attaqué pour se défendre. Hein. Il vaut mieux avoir une approche proactive. Alors en mettant des choses simples en place, déjà on ne va pas parler d'acheter du matériel faramineux très cher comme des pare-feux, tout ça, mais ne serait-ce que changer son mot de passe assez souvent, sensibiliser ses salariés, parce qu'il faut savoir que 80-90% des attaques informatiques aujourd'hui sont dues à une action humaine au départ. Donc voilà, c'est quand même l'humain la porte d'entrée principale. Après, en disant ça, je ne veux pas culpabiliser l'humain non plus, il faut qu'il continue à travailler. C'est quand même grâce à lui que tout ce système fonctionne. Mais voilà, sensibiliser, prévenir, mettre des choses en place relativement simples et y aller petit à petit. En tout cas, entamer la démarche, qu'elle soit réglementaire, technique, fonctionnelle, organisationnelle, il faut entamer la démarche. Après, peut-être que pour éviter, moi je crois profondément en ça, pour éviter que ça devienne très cher, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer de la mutualisation de ressources entre entreprises? Ça passerait par des syndicats, ça passerait par des organisations, ça passerait par des collectivités un peu grosses. On pourrait prendre, par exemple, une petite mairie n'a pas les moyens de se défendre. Par contre, après, une grosse à côté peut-être pourrait mutualiser certaines ressources. Je crois en ça, je crois en l'être humain. Donc voilà, il faut y aller, il faut se faire confiance. Par contre, il ne faut pas avoir peur. Voilà. La peur, déjà, elle n'enlève pas le danger, quoi qu'il en soit. Et il faut continuer à travailler. Et puis voilà.
Et justement, pour compléter, quelle est la procédure à suivre une fois qu'on est attaqué?
Partir en courant. Non, c'est pas la procédure. Alors les procédures, c'est justement ça, c'est des méthodes que j'apporte dans mes conseils. Déjà, il y a la première procédure pour l'utilisateur. Par exemple, vous rendez compte que vous avez cliqué sur un mail malicieux, votre ordinateur est bloqué, la première chose à faire, c'est de débrancher son ordinateur. Alors le débrancher du réseau, pas le débrancher électriquement, parce qu'il faut penser qu'un ordinateur infecté, il faut pas l'éteindre. Il faut le laisser allumer, parce que ça va permettre après aux investigations de se faire. Si on l'éteint, on peut effacer certains fichiers de log qui auront une importance pour...
Faire une traçabilité, c'est ça ?
Faire la traçabilité, effectivement. Par contre, il faut le débrancher du réseau, il faut arriver à l'isoler pour pas que ça infeste les autres. Alors ça, c'est... voilà, c'est sur certains types d'attaques c'est bon, sur d'autres non, parce que dans le réseau ça se propage à la vitesse grand V, donc le temps de réaction, il y a de fortes chances que c'est infesté tout le reste. Après, il faut appeler le service informatique ou le sous-traitant, surtout informer ses collègues qui a eu un problème, ne plus toucher à son ordinateur bien évidemment, et ensuite après viendra. Une fois que la cause sera mise en place, il y aura la remédiation, des plans de remédiation qui vont arriver. Ça, ce qui seront travaillés de manière, alors de manière générale, parce que finalement, qu'on soit une petite entreprise ou une grosse entreprise, grosso modo, le fonctionnement est le même. Mais après, c'est adapté au fonctionnement, aux ressources qu'il y a en interne.
Ok, super. Merci beaucoup pour ces propos précieux et édifiants. À présent, nous allons faire une courte pause et revenir juste après pour la deuxième partie. Oh yo yo.
passa na minha vida. De vou ver a quem eu estou. E você sabe como é que é. Eu vou, mas poderei voltar quando você quiser.
Nous sommes de retour sur cette seconde partie de l'émission, toujours au sujet de la cybersécurité et la cybercriminalité. Nous allons à présent nous intéresser à la prévention et la réponse des cyberattaques au point de vue des forces de l'ordre. Pour répondre à ces questions, nous avons le privilège d'avoir auprès de nous l'adjudant Thomas. Bonjour mon adjudant.
Bonjour.
Alors, quel est votre rôle en tant que référent cybersécurité ?
Ben, j'ai un rôle de prévention. Le référent cybersécurité et dans chaque département, et un rôle de prévention auprès des collectivités, entreprises et entreprises de santé aussi. Et on fait des pré-diagnostics qui permettent de voir la maturité cyber des différentes entreprises.
Ok, alors comment collaborez-vous avec les entreprises ou les particuliers ?
Ben, par rapport à, on fait des pré-diagnostics, comme je vous expliquais, c'est des questions assez simples pour les entreprises qui font la demande, afin de voir s'ils ont la bonne démarche cyber sur l'entreprise.
D'accord. Et quel type d'incident ou attaque traitez-vous le plus souvent ?
Ben, le plus souvent, c'est le ransomware, comme disait le collègue tout à l'heure. Et aussi, il y a beaucoup les faux ordres de virement. Quelqu'un qui reçoit une entreprise, qui reçoit un mail, comme tout à l'heure le phishing, par rapport à un problème de virement, un nouveau RIB apparaît et l'entreprise fait un virement sur ce nouveau virement qui appartient aux escrocs, quoi, malheureusement.
Ok. Et quelles sont les étapes clés d'une intervention de la gendarmerie ?
Il faut déjà, comme disait tout à l'heure, déposer plainte aussi, débrancher l'ordinateur, garder tous le traçage des emails. Comme ça, on a un pôle intervention-investigation qui permettra de vérifier tout le mailing et aussi le suivi des logs de connexion et tout ça, quoi.
Ok. Y a-t-il une sensibilisation qui se fait au niveau des entreprises ?
Tout à fait, oui. C'est en cours aussi par rapport à tout ce qui est aussi collectivité territoriale comme les mairies. Avec le CDG, il y a un partenariat qui fait où on fait de la sensibilisation tous les ans auprès des mairies, des secrétaires de mairie, DGS et tout ça. Et aussi ce qui permet de faire la sensibilisation, le premier palier de la cybersécurité.
Ok. Et en termes généraux, quels sont les défis que rencontre la gendarmerie face aux cyberattaques ?
C'est vrai qu'ils ont toujours un petit coup d'avance, malheureusement. Il y a tout ce qui est IA et tout ça, et phishing et tout ça. Mais ça permet, faut toujours s'informer. Parce qu'il y a toujours un petit coup d'avance et il faut s'informer pour mieux se protéger, quoi.
Ok, ok. Et quel pourcentage représentent les cyberattaques dans vos plaintes ?
La Lozère n'est pas exsangue. Même si on est un petit département, on a beaucoup moins d'entreprises que d'autres départements. Mais c'est un bon pourcentage. Par rapport à d'autres départements de France, on est, je ne vais pas dire une par jour de cyberattaques qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. Parce que des fois, les gens ne savent pas qu'ils ont été attaqués. Comme disait aussi le collègue tout à l'heure, des fois, les gens ne le savent pas, ils le voient après. Mais il faut toujours faire attention, quoi.
D'accord. Ok. Et est-ce que les forces de l'ordre sont suffisamment outillées pour faire face aux cyberattaques ?
Comme tout le monde, on a des pôles d'investigation aussi et d'innovation qui créent des logiciels, des surveillances comme pour différents sites institutionnels avec des partenariats, quoi.
Ok. Et une fois que vous arrivez à captiver un criminel de cyberattaque, quelle est la peine qu'encourt ce type de personne ?
Tout dépend de l'attaque et aussi du truc, du de l'infraction,
okay.
Ce qui permet aussi de quantifier selon l'infraction. Je ne peux pas le dire exactement la peine, mais selon l'infraction, il y a plusieurs degrés au tribunal.
Par exemple, un cas de rançonnement, un faux mail et puis extorsion d'argent.
L'extorsion, ça passe au tribunal. C'est ça, okay. C'est le procureur qui... Ça passe en jugement. Et c'est le jugement qui fait... Mais il y a quand même des peines planchées d'années de prison, d'amende et d'amende.
Ok. Et est-ce qu'elle est différente d'une peine normale ou y a-t-il... Est-ce qu'il y a une différence entre ce type de crime?
Après, c'est le code pénal qui gère les différentes infractions.
D'accord.
C'est vrai que maintenant, il y a de plus en plus, on va dire, aussi sur tout ce qui est Internet.
Okay.
Mais c'est propre à chaque infraction, quoi.
D'accord, super. Alors, à présent, nous allons accueillir Maëlys qui va nous partager sa chronique autour du Dark Web.
Merci Jean-Marie. Bonjour à tous. Je vais vous parler du Dark Web, une face cachée d'Internet, accessible uniquement via des navigateurs spécialisés comme Tor, et qui propose toutes sortes de marchés illicites. Le Dark Web est un endroit où l'anonymat est roi et où la cybercriminalité prospère. On y retrouve des plateformes qui ressemblent à des versions sombres d'Amazon où tout s'achète et se vend. Tels que des données personnelles volées, des logiciels malveillants, des armes, des drogues. Et même des services criminels sur commande, comme du piratage ou des attaques ciblées. Ces marchés sont alimentés par de la crypto-monnaie, comme le Bitcoin, ce qui rend leur activité très difficile à suivre. Derrière ces plateformes se cachent des hackers aux profils très variés. Certains le font par défi, parfois même pour des raisons idéologiques, comme dénoncer des injustices ou exposer des abus de pouvoir, mais aussi souvent pour des raisons financières. Par exemple, Albert Gonzalez, qui était responsable d'un des plus grands vols de données bancaires aux États-Unis. C'est entre 2005 et 2007 qu'il infiltre les réseaux de grandes entreprises comme TGX, Elevent ou encore Atlant Payment System. Lors de ces attaques, il interceptait des données de cartes de crédit au moment des transactions. Il a volé plus de 170 millions de numéros de cartes bancaires, ce qui a provoqué une perte estimée à plusieurs centaines de millions de dollars pour ces entreprises. C'est en 2008 qu'il se fera arrêter et condamner pour 20 ans de prison. Mais il ne faut pas se limiter à un seul type de hacker. Le Dark Web est peuplé de différentes catégories d'acteurs, comme le hacker militant ou les développeurs criminels, qui créent des outils et des plateformes pour faciliter les activités illégales. Parmi ces plateformes, deux ont particulièrement marqué l'histoire du Dark Web. D'un côté, Silk Road a été lancé en 2011. C'était une plateforme en ligne où les utilisateurs pouvaient acheter et vendre des biens illégaux, comme des drogues, des armes ou même des faux documents. Ce marché était accessible uniquement via le réseau anonyme Tor, ce qui permettait aux utilisateurs de cacher leur identité. Cette plateforme a rapidement attiré une communauté de cybercriminels, mais aussi de personnes cherchant à acheter des produits interdits, tout en restant dans l'ombre. Ce qui le distinguait, c'est qu'il utilisait le Bitcoin, une crypto-monnaie pour rendre les transactions encore plus anonymes et difficiles à tracer. Tout ça a fini par attirer l'attention des autorités. En 2013, après plusieurs années d'enquête, le FBI a réussi à localiser et arrêter son fondateur. De son côté, Alphabet, lancé en 2014, est rapidement devenu l'un des plus grands marchés illégaux du Dark Web. Ce qui le distinguait, c'était à la fois sa taille et la diversité des services qu'il proposait, comme des informations bancaires volées, des logiciels malveillants ainsi que sa sécurité renforcée. En juillet 2017, après une opération internationale menée par Europol et le FBI, Alphabet a été fermé. La lutte contre le Dark Web est complexe et exige des efforts continus de la part des autorités. Europol, le FBI et d'autres agences de sécurité sont régulièrement en mission pour infiltrer ces plateformes, identifier leurs créateurs et démanteler les réseaux criminels qui en profitent. D'un autre côté, des spécialistes en cybersécurité traquent les flux de crypto-monnaies et font des outils pour neutraliser les logiciels malveillants. Mais à chaque marché fermé sur le Dark Web, d'autres en profitent pour ouvrir, souvent plus résistants que le dernier. Le Dark Web n'est donc pas qu'un simple lieu de transaction. Il est le reflet des cybercriminels, ces personnes exploitant les failles humaines et technologiques, rendant la lutte contre ces activités essentielle. Comprendre ces activités est la clé pour mieux s'en protéger et à terme réduire l'impact de ce réseau criminel mondial.
Merci beaucoup Maëlys. Alors mon adjudant, vous avez un commentaire à faire sur ce qu'elle a dit?
Non, elle a tout très bien résumé et assez complet sur le Dark
Web. Super. Alors, on aimerait savoir, est-ce que la gendarmerie fait-elle des partenariats avec le privé pour lutter contre la cyberattaque ?
Tout à fait. Il y a avec cybermalveillance, il y a aussi des applications qui sont créées afin de donner des conseils. Il y a Ma Sécurité qui existe avec des petites fiches conseils sur si vous recevez un mail frauduleux, du smishing, comme tout à l'heure okay. parlait votre collègue.
Du coup, cela fait partie de votre sensibilisation, c'est cela ?
C'est intégré par un pôle qui est sur Paris, mais qui est décliné sur toute la France. Quoi.
Ok, super. Et comment est-ce que la gendarmerie peut-elle inciter les organisations spécialisées en cybersécurité à participer à des initiatives communes ?
Par des partenariats, il peut y avoir un peu dans chaque département a des partenariats différents, mais ce qui permet de se mettre en lien et de faire de la prévention, comme je disais tout à l'heure, la prévention.
Est-ce que vous avez en tête une anecdote ou d'un succès que vous avez obtenu récemment sur un cas de cyberattaque ?
Non, pas
d'accord.
Pas
okay.
actuellement.
Ok, super. Alors, comment est-ce que la gendarmerie prévoit-elle de recruter et de former des équipes spécialisées
pour... Au niveau de... On appelle ça le ComCyberGendre. C'est okay. une communauté qui est sur Paris, qui gère tout le cyberespace.
D'accord, ok.
Qui a des ingénieurs
okay.
qui sont spécialisés dans les logiciels, la prévention, qui font un peu tout,
okay.
tout ça sur...
Ok. Et vous, sur votre circonscription, vous êtes au nombre de combien d'enquêteurs ?
Pour l'instant, pour la prévention, je suis le seul.
Ok.
Pour cybersécurité.
D'accord.
Pour la prévention, comme je disais tout à l'heure, des TPE, PME et tout ce qui est collectivité.
Ok.
Mais après, il y a aussi des investigations, des personnels pour des investigations.
Ok. Super. Pour évoluer, nous allons accueillir Laetitia qui va nous parler de sa chronique autour du smishing.
Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous et à toutes. Le smishing est une arnaque par SMS où des arnaqueurs se font passer pour des organismes de confiance. Leur objectif est de tromper les victimes pour voler leurs données sensibles, comme des coordonnées bancaires ou installer des logiciels malveillants sur leurs appareils. Il est crucial d'être vigilant pour éviter de tomber dans ce piège. Comment se produit l'attaque de smishing ? 1. La victime reçoit un SMS urgent l'incitant à cliquer sur un lien ou à appeler un numéro. 2. Ce lien redirige vers un site frauduleux. 3. Le site ou le numéro demande alors des informations personnelles ou bancaires. Dans certains cas, un logiciel malveillant peut être installé sur l'appareil, permettant aux escrocs de voler des données ou de prendre le contrôle sur l'appareil. Face à cette menace, la vigilance est essentielle. Voici quelques conseils pour se protéger contre le smishing. Soyez méfiant envers le message urgent. Vérifiez toujours la source. Contactez l'organisme directement pour confirmer. Signalez les SMS suspects. En France, envoyez-les au 33700. Mettez à jour vos appareils pour renforcer leur sécurité. En cas de victimisation de smishing, il est impératif d'agir pour limiter les dégâts. Prévenez immédiatement votre banque si vous avez partagé des informations sensibles. Conservez des preuves de l'escroquerie, capture d'écran, URL, etc. Protégez votre appareil en installant un antivirus et déposez plainte et signalez l'incident à l'organisme concerné.
Merci beaucoup Maëlys. Vous avez quelque chose à ajouter ?
Ça a été assez complet, mais comme c'était dit aussi dans sa chronique, surtout de ne pas divulguer les informations personnelles,
okay.
carte bancaire, c'est le plus
d'accord,
important.
D'accord, super. Alors, depuis tout à l'heure, nous parlons que des entreprises et des hommes personnels. Et on aimerait aussi savoir, au niveau des jeunes et du système éducatif, est-ce qu'il y a-t-il un travail que vous effectuez ?
Il existe des partenariats pour les scolaires primaires, on dira, au
okay.
niveau CM2. C'est le permis Internet, ça s'appelle. C'est
okay.
en partenariat avec AXA. Ça permet de leur faire un peu les dangers de l'Internet, les prémices, on dira. Parce que c'est le début, ils commencent à faire des recherches sur Internet pour les travaux scolaires, mais c'est... le tout début. Après, niveau lycée, c'est un peu plus en partenariat local avec les différents lycées principaux. C'est en partenariat local. Il n'y a pas de choses spécifiques créées. C'est...
Ok. Et vous pensez que cela se fait de manière dissociée ou est-ce qu'on peut l'intégrer dans le système éducatif comme une matière pour les plus jeunes ?
Je ne suis pas dans le scolaire, mais c'est vrai que ce serait bien de faire un peu de préventif.
D'accord.
Maintenant, tout le monde est sur un téléphone, Pronote et autres logiciels éducatifs. Et c'est vrai que ça, il faut avoir faire attention. Absolument. Toujours le danger peut être un peu partout. Maintenant, beaucoup de jeunes enfants, on dira, ont des smartphones. Et c'est là que c'est une des premières cibles, malheureusement.
Ok. Et de manière générale, comment est-ce que la gendarmerie peut-elle avoir de l'avance sur les cyberattaques ?
Bah ça, c'est un peu le nerf de la guerre. Il faut toujours essayer d'avoir un coup d'avance, mais c'est pas le plus facile, malheureusement. Okay. Mais il faut arriver, c'est un peu le du gendarme et du voleur, comme on dit, ah oui. 2.0, mais ah c'est oui. un peu, il faut arriver okay.
Ouais, c'est pas
à
évident.
Trouver, c'est, malheureusement,
absolument.
Les escrocs ont toujours un petit coup d'avance, mais même si
oui.
des fois ça... Ça peut être l'inverse, malheureusement, aussi.
Et oui. D'accord. Pour terminer, quels sont vos conseils vis-à-vis du public ou des plus jeunes concernant les cyberattaques ?
Comme on disait tout à l'heure, cette prévention, avoir le... de ne pas divulguer. Si on a un doute, comme disait votre consoeur, appelez la banque. Si vous voyez un conseiller bancaire qui vous appelle pour dire « vous pouvez me redonner votre numéro de carte bleue ?» Surtout, divulguez pas et faites un contre-appel. C'est okay. le truc le plus important aussi.
Super. Merci beaucoup, monsieur l'adjudant Thomas. Nous sommes arrivés à terme de notre émission. Merci aux chroniqueurs, merci aux invités. Nous vous disons à bientôt pour une nouvelle édition. Et merci aussi à vous, chers auditeurs, qui nous suivez depuis les pages Facebook et YouTube de Lozère Développement et sur les ondes de 48 FM.